Et maintenant, un bon podcast.
Bonjour à toutes et tous. Nous sommes sur le festival de Trolls et Légendes qui se passe à Mons tous les deux ans. Et j'ai en face de moi Olivier Joiris, qui est plus connu sous le nom de Jolan ou Yolan selon la provenance géographique de nos auditeurs. Et voilà. Et donc, Olivier fait partie des organisateurs. Et je suis en présence aussi de Fabrice qui est.
Qu'est-ce que je suis dans le fond ? Je suis premier assistant de Jolan ou Yolan en fonction de la provenance géographique des auditeurs. Et voilà, et je m'occupe aussi en Belgique de la diffusion, la promotion en fait du jeu Dungeon Twister qui n'est pas trop représenté sur ce salon aujourd'hui parce qu'il est. La nouvelle édition sortira seulement à la fin de cette année.
Bon, bonjour Olivier.
Bonjour.
Voilà. Ça c'est fait. Dites-moi, c'est quoi en fait ce festival Trolls et Légendes ? Donc on vient d'entendre parler de Dungeon Twister, bon mais ça c'est un atome dans la grosse molécule qui est Trolls et Légendes. Donc c'est quoi l'idée du festival hein ?
L'idée du festival est née en 2004 à Antine, au Festival des Musiques Celtiques.
C'est connu sous le nom des Antinoises.
Voilà, où nous avions une animation avec notre ASBL Antésis. Et on a imaginé un concept qui s'appellerait le pavillon des trolls. Un troll à cause de notre brasseur bien-aimé. Et nous avons fait en petit ce que nous avions jamais imaginé de faire en grand. Je ne sais pas si j'ai été très clair.
D'ailleurs, un truc qui est quand même assez grand. Donc si c'est petit par rapport à ton idée, c'est pas mal, quoi.
Alors, donc en fait, l'idée, comme nous avions à l'époque un magazine, on représentait les différents pôles du magazine, quoi. Donc il y avait une section musique, il y avait une section, enfin il y a toujours, hein, ouais. Une section musique, une section jeu, une section cinéma, une section BD, section littérature. Donc ça c'était tous les thèmes qui sont abordés dans notre magazine, enfin notre ancien magazine, et surtout maintenant dans notre webzine lefantastique.net. Mmh. Et donc, quand on a vu la somme d'efforts qu'on avait consacrée pour occuper une surface finalement réduite à 300 mètres carrés, on s'est dit, mais on pourrait reproduire cet événement et en faire quelque chose de plus grand. Et donc, nous avons émigré en 2005. On avait à ce moment-là comme invité principal à l'AMLI et sur le thème du Seigneur des Anneaux. On s'est installé sur les parkings d'Imagimons. Et là, on avait un petit 2000 mètres carrés. Et là, nous avions, avec mon ami Fabrice, on avait rempli un petit espace qui faisait environ 100 mètres carrés et qui a, on peut le dire, cartonné et qui est encore dans toutes les mémoires pour sa convivialité, sa chaleur, son manque de lumière et l'étroitesse de ses stands, puisque nous avons réussi à caser 30 tables de 2 mètres carrés dans une surface qui en faisait 100 mètres carrés, ce qui est quand même un exploit.
Effectivement, il y avait des étages.
Non, les gens passaient presque en dessous des tables. Enfin bon, je plaisante, mais c'est vrai que c'était assez chaotique. Et donc, Fabrice et moi, nous avons imaginé de refaire une convention, cette fois-ci, à Bruxelles, l'année qui a suivi ce festival de 2005. Donc là, on se retrouve en 2006 et nous avons occupé une surface appréciable, puisqu'on avait environ 2000 mètres carrés. Et nous avons fait notre 100 premiers visiteurs. Et donc c'est là que ça a apporté le nom Fantastic Convention, parce qu'il y avait déjà les conseils Fantastic Night, il y avait un site qui s'appelle Fantastic.net, et voilà, comme ça vous connaissez l'origine de cette convention.
Avant tout, juste avant tout.
Alors pourquoi, Fabrice, pourquoi s'être lancé dans un truc pareil ? C'est juste la passion du jeu ou c'est le fait de réunir des gens qui aiment les jeux ?
Je crois qu'on ne peut pas faire ça sans avoir la passion du jeu et l'envie de communiquer finalement cette passion, parce qu'on ne peut pas... je veux dire, il faut un certain feu pour traverser tous les obstacles. Finalement, on est passé par différents stades depuis. Moi, pour ma part, le Brussels Games World un peu avant la convention, et puis au moment où le BGW a disparu, il y avait effectivement une place à prendre. C'est à cette époque-là que la Fantastic Convention est née et a pu se faire un nom dans le fond.
Ouais. D'ailleurs, si tu te souviens bien, on avait démarché Marcus, donc le patron de l'entrejeu d'Ixelles, pour l'aider. Et clairement, il nous a dit, voilà, moi je suis pour des raisons diverses, j'ai décidé d'abandonner ça et de me consacrer plus à ma boutique. Et donc voilà, donc on, ouais, on a pris la niche quelque part. Quoi. Donc, ouais, donc c'est un concours de circonstances. Donc c'est des gens brillants qui venaient d'horizons divers et qui apportaient une plus-value à cet événement. Un magazine, un webzine derrière, une expérience, une première expérience de festival, ben, tout ça s'est cristallisé et on a fait cette convention comme ça. Et donc la progression, elle était simple. Première année, 3 éditeurs. Deuxième fois, 7 éditeurs. Troisième année, donc la première Fantasy Convention. On était ici à Troll et Légendes, on était à plus de 20 éditeurs, quoi. Donc ce qui est quand même pas mal.
On a une influence grandissante et puis un public aussi qui vient chaque année de plus en plus nombreux. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de monde.
Alors parlons-en justement, c'est combien de visiteurs ? Cette année on ne sait pas encore évidemment.
Les années précédentes, donc on a fait 6000 entrées au premier Troll et Légendes, on en a fait 12 000 au deuxième Troll et Légendes. D'après les échos que j'ai eus, les gens qui avaient des stands ont mieux vendu, voire plus vendu en une journée que sur tout leur week-end de la fois d'avant. Bon, ouais, ce sont des premiers échos. Hein. Ouais. Et la Fantastique Convention, donc toute seule à Bruxelles, elle a fait 1300 et 2000 entrées.
C'est ça. Et donc, Troll et Légendes, ça n'est pas la Fantastique Convention. En fait, la Fantastique Convention fait partie du festival, voilà, Troll et Légendes.
C'est un événement dans l'événement. Quoi. Mm-hmm. Donc, pour résumer... pour ceux qui connaissent évidemment le Mons Expo, ça va être plus simple pour eux, mais disons qu'il est délimité arbitrairement en 4 zones. Il y a une zone d'occupation, les palais font en tout 8000 m2. Il y a 2000 m2 pour la convention, il y a 2000 m2 pour les stands d'édition BD, il y a là-dedans, il y a encore en plus, dans les 2000 m2 qui restent, il faut caser encore une cinquantaine d'exposants, des artisans, le restaurant. Et les deux derniers 2000 m2 sont occupés par les concerts. Et donc cette année, et alors à ça vous rajoutez évidemment les salles de débat, de projection de cinéma, parce qu'il y a aussi un concours de court-métrage, et plus une exposition. Donc on approche des 8500 m2, et à ça vous rajoutez encore l'espace extérieur. Donc ça c'est la nouveauté cette année, des compagnies médiévales, des artisans qui sont équipés pour pouvoir vendre dehors, donc en roulotte ou avec des tonnelles et des choses comme ça. Et donc voilà, et c'est comme ça que ça devient...
Ça devient un festival multiculturel en fait, voilà, puisque vous êtes vraiment dans un brassage de différents milieux, puisque ici on est dans le pôle jeu, à côté on a effectivement des artisans, mais on a aussi des dédicaces, on a des écrivains, on a des auteurs de BD, c'est ça le but, c'est de faire transpirer les différents domaines les uns vers les autres. Transpirer, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais bon.
Créer une osmose, et alors ce que...
Une osmose, ça c'est bien, ça.
Alors ce qu'il y a en fait un osmove, comme dirait Marcus.
Des synergies.
Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Enfin, ce qui est vraiment très clair et qu'on l'a clairement observé, c'est qu'il y a des dessinateurs qui sont passés en jeu, il y a des gens du jeu qui sont devenus des auteurs de romans, et des gens qui se connaissent sur Internet, se connaissent... partout, MSN et tous ces machins-là, ont pu enfin se rencontrer. Quoi. Et donc on a, par exemple, paradoxalement, on a des Français qui se rencontrent ici en Belgique, quoi, et ça c'est assez amusant. Quoi. On a des artistes belges qui ont travaillé pour des maisons d'édition de jeux de rôle français. Mais ça, pour nous, c'est vraiment... c'est très très bien. Quoi.
Et justement, les rencontres françaises qu'on fait ici disent que c'est quand même génial d'avoir ce genre de brassage ici. C'est dommage qu'on n'ait pas ça en France. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça en France ?
Alors ça, je pense que c'est une question plutôt historique que ce qui se passe ici, c'est que tout s'était cristallisé dans la SBL Antesis, voilà, donc qui éditait Chimera, qui était centrée sur une thématique, l'imaginaire. Et dans cette thématique, il y avait plusieurs idées qui étaient travaillées, donc la littérature, la bande dessinée, la musique, le cinéma et les jeux. Et donc, c'est dans l'équipe de cette ASBL que se sont rassemblées les personnes qui allaient plus tard s'occuper de cette convention. Et je ne pense pas que l'équivalent ait jamais existé en France. C'est quelque chose qui s'est fait un peu au hasard. Hein. C'est un peu... Tandis qu'en France, les conventions sont le fait soit de distributeurs, soit d'éditeurs de jeux. Donc c'était le monde du jeu, c'était hexagonal, je pense, ou en tout cas, oui, mais c'était, il me semble que c'était hexagonal qui était derrière, tandis que la Gen Con et puis maintenant le salon du jeu de Paris, c'est Asmodée qui est derrière très clairement. Et voilà, et donc en fonction de ça, eux, ça, évidemment, travaillent sur l'épaule qui les intéresse, donc le jeu, et pas nécessairement la bande dessinée, etc. Ceci dit, je pense qu'il y avait déjà eu d'autres petites initiatives de ce genre. Il me semble que BD Bill faisait un petit festival avant à Morlanway, qui mixait aussi jeu et bande dessinée, mais c'était assez modeste, hein, je veux dire, par rapport à l'organisation, évidemment, qui se rassemble ici autour des légendes.
Oui, c'est-à-dire que chacun des pôles ici a quand même invité des personnalités représentatives de son pôle. Il y a des auteurs qui sont venus, des auteurs de jeux de société qui sont venus ici. Il y a des éditeurs, il y a des groupements qui viennent présenter leurs prototypes. Mais de l'autre côté, bon, l'invité du festival, c'est Brian Froud, qui est donc le concepteur et le designer des activités comme, enfin, des films comme Dark Crystal ou encore Labyrinthe. Il y a aussi un brassage au niveau culturel, c'est que Non seulement ce sont des passionnés qui sont là, l'idée c'est vraiment de réunir non seulement des mondes et des passionnés, mais c'est aussi de montrer quels sont les acteurs forts de ce genre de milieu-là et de les montrer aux autres. Et ça, c'est peut-être ça qui fait la spécificité d'un festival comme celui-là, c'est que vous mettez de l'énergie à peut-être transférer du culturel au-delà de la passion, quoi. Cette année, c'est la féerie. L'année précédente, c'était...
Les précédentes, c'était les mondes magiques d'Harry Potter, à la Harry Potter.
Voilà. Donc à chaque fois, dans ce genre de domaine-là, il y a des spécialistes, on va dire, il y a des gens qui représentent vraiment ce genre de thème-là, et donc vous allez jusqu'à les inviter pour les montrer au grand public, en fait. C'est un peu ça. Le partage va jusque-là, c'est pas justement une réunion de passionnés.
Vraiment, dans 2 ans, il n'est pas impossible qu'on ait des gens comme Robin Hobb en littérature, et alors Pratchett, hein. Donc ça serait vraiment très très...
Avec un thème qui serait
Le thème, vraisemblablement, ce sera les dragons. Ouais. Vraisemblablement. En plus, c'est la mascotte de notre webzine, quoi, donc ça tomberait plutôt bien. Et puis, les dragons, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est tellement un truc... C'est quelque chose qui peut vraiment plaire.
C'est culturel, transgénérationnel, c'est international, il y en a partout, en fait. Hein, tout ça, en Chine, en Europe, dans toutes les cultures, enfin...
Et alors, en fait, comment ça s'est passé avec Alan Nee? Ben, ce sont les gens d'équipe littérature qui l'ont rencontré sur un salon. Il a dit qu'il serait... John Ho, le premier. Ouais. Il s'est dit, OK, d'accord, je viens.
Et... Alan Nee, John Ho, ce sont les illustrateurs attitrés de tout ce qui est...
Ce sont les directeurs artistiques du film du Seigneur des Anneaux, donc le film de Jackson, et qui était au départ connu pour avoir illustré donc très clairement, quoi. Et donc... Il y a une passerelle naturelle qui s'est faite entre John Ho et Alan Nee, puisque fatalement ils se connaissaient, et le premier a pu dire au deuxième que c'était très bien, qu'il fallait absolument y aller. Et en fait, très logiquement, de Alan Nee, on est passé à Brian Foote, parce que Alan Nee et Brian Foote ont travaillé sur un livre d'illustration mythique qui s'appelle Fairies, et qui est vraiment connu de tous les spécialistes du genre, quoi. Oui. Donc voilà. Donc maintenant, je veux dire que... c'est peut-être péjoratif ce que je vais dire, mais à ce niveau-là, on a usé toutes nos cartouches. Donc il faut trouver maintenant l'idée géniale. Mais l'avantage d'avoir invité 3 grands noms et 4, puisque Wendy Froude accompagne, il ne faut quand même pas, pas
négliger. Elle, donc c'est la femme de Brian.
C'est la femme de Brian Froude, et c'est surtout une créatrice de marionnettes. Et c'est elle qui a créé Yoda, quoi, hein, qui est un peu connue. Ouais.
Quel est votre souhait pour l'évolution de ce festival? Donc dans 2 ans, c'est quoi? C'est l'année de la consécration?
Ben, je pense que si dans 2 ans, on peut avoir encore d'autres éditeurs qu'on ne voit pas en Belgique, moi, je trouverais ça très intéressant, et pour le public belge, et pour l'ensemble du festival.
Ouais. Voilà. Sharine Ford?
Oui, donc dans 2 ans, c'est ça, c'est loin.
C'est loin.
Dans 2 ans. Hein, donc déjà, l'année prochaine, je suppose que Jolan va refaire une fantastique convention à Bruxelles. Donc... c'est toujours un peu une année sur deux, en fait. Hein. Une année sur deux à Mons, au Troll et Légendes, une année sur deux à Bruxelles.
Après la convention de Bruxelles, donc il y aura une convention à Bruxelles?
On ne sait pas encore très bien. J'ai 3 pistes pour le moment, enfin 3 pistes que je ne laisse pas tomber, qui sont toutes les 3 très intéressantes. Donc Bruxelles, évidemment, voilà, la capitale du monde libre, le centre du monde.
Ouais.
Donc c'est clair qu'on ne, que c'est toujours très intéressant d'aller à Bruxelles. Donc j'ai une possibilité avec mon ami Michel Van Langenong, donc le responsable des ludothèques pour la Belgique, pour la communauté française, excusez-moi. Donc il aurait une salle à Bruxelles qui pourrait nous accueillir. Mmh. Donc à voir. Donc une espèce de synergie entre les ludothèques et la Fantastique Convention. Donc ça, c'est une piste. La deuxième piste, et elle est très intéressante, ce serait créer enfin en Belgique un grand festival du jeu qui serait surtout et avant tout une aide à la création, un encouragement pour nos jeunes talents belges, quoi. Et alors, évidemment, les autres seraient les bienvenus. Et si ça devient un festival national ou un festival européen, tant mieux. Bon, voilà, quoi, on va commencer modestement. Ouais. Donc, l'idée, ce serait le vendredi, un gros festival avec, donc, comme un festival de films, avec les prototypes, les éditeurs, donc une rencontre entre les deux le vendredi, donc une rencontre professionnelle, et le samedi et le dimanche, une convention de jeux comme ici, où le public rencontre où les éditeurs montrent ce qu'ils veulent, et alors où les prototypes sont jugés par le public. Mmh. Donc moi j'imagine un prix professionnel et un prix du public, quelque chose comme ça. Quoi. Mmh. Donc ça c'est une idée qui germe dans nos cerveaux malades. Et donc ça se passerait idéalement, on avait pensé à Louvain-la-Neuve. Uh-huh. Pour changer, et parce qu'il y a un campus, qu'il y a beaucoup de monde, et que...
Il y a des salles.
Et qu'il y a des salles, pas, il n'y a pas de salles, mais on va essayer de les trouver. On a quelques idées dont je ne vais pas encore parler, parce que les locaux ne sont même pas encore construits.
Ah oui, vous allez construire des bâtiments, c'est impressionnant.
Oui, oui. Et alors, le dernier...
Aucun sacrifice.
La troisième option qui est probablement la plus réaliste et la plus économe d'efforts, la plus économique en effort, ce serait de participer à notre festival Chouchou, qui est les Antinoises et qui est le jumeau de Troll et Légendes, qui se passe lui aussi... ça va, t'as encore de la bande ?
Ouais.
Qui se passe encore... qui se passe lui à Liège. Et là, on profiterait du Festival des Antinoises pour accueillir la convention là, plus simplement, sous un grand chapiteau, dans une école.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces sources d'informations ? Donc on a parlé de la Fantastique Convention, de Trolls et Légendes, des Antinoises, etc. Il y a des lieux sur Internet où on peut trouver tout ça.
Donc je vous invite à aller voir le site des Soirées Terribles, où vous trouverez donc toutes ces informations dans un magnifique podcast.
Si vous l'écoutez, c'est que vous l'avez trouvé.
Oui, parce qu'on le cachait bien.
Voilà.
Non, évidemment, c'est sur notre site ami qui nous accueille, qui est legobelin.net. Et alors, à ça, vous rajoutez une slash et un blog. Donc ça, c'est le blog. Et alors, il y a également un site fixe qui s'appelle legobelin.net/fancon.
Et Troll et Légendes, c'était Troll-Légendes.
C'est Troll-et-Légendes, le tout au pluriel, donc avec des S, .be. Et ça, c'est pour avoir des images du festival, les films, les extraits de concerts, et patati et patata.
Fabrice Willis, merci.
Mais de rien.
Voilà. Olivier Joris, un grand merci.
Voilà, merci Benoît, hein, c'est Benoît.
C'est Benoît, tout à fait. À très bientôt et à dans quelques mois sans doute, voilà. Avec un micro qui traîne.
Merci.
Bonne journée.